bonsoir. Entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir au logement. À l'ordre du jour ce soir, la crise du logement assigne-t-elle à résidence les plus précaires? En ce jour de la fin effective de la trêve hivernale, locataires et associations d'aide au logement s'interrogent sur la crise en cours et son aggravation. Inflation, hausse des taux d'intérêt, parc locatif privé réduit par l'augmentation des locations saisonnières de type Airbnb, mise en chantier beaucoup moins nombreuse de logements HLM que prévu, tout ça, ce sont autant de causes à la tension sur le marché locatif et sur le marché du logement en général. Au point que dans son dernier rapport annuel, publié le 1er février, la Fondation Abbé Pierre ait pu parler d'assignation à résidence pour les plus mal logés. Parmi les solutions précaires, outre les logements indignes, certains vivent dans leur voiture ou de plus en plus nombreux dans un camping, en caravane ou en mobilhome. Nous en parlerons avec nos trois invités et d'abord avec Gaspard Lyon. Bonsoir Gaspard Lyon. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'Université Sorbonne-Paris-Nord. Vos travaux portent sur les classes populaires et les formes de logement dégradés et non ordinaires. Et vous êtes auteur d'un livre à paraître en fin de semaine, assez formidable, je dois le dire, qui s'intitule « Vivre au camping, un mal logement des classes populaires ». C'est aux éditions du Seuil, on en parlera avec vous. Manuel Domergue est également avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Anaïg Lemeur, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée Renaissance du Finistère. Vous êtes particulièrement intéressé à cette question, en particulier du logement à partir du moment où il y a tension locative avec Airbnb. Et puis enfin, Nicolas Glière à distance, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'habitat à Nantes Métropole.
C'est très calme. Et puis, ben, chacun a sa petite parcelle, mais moi je sais que jusqu'à la fin de ma vie, je resterai ici. Hein. On était en HLM avant, ça change quand même. Hein.
Ouais. Vous avez un mobilhome en bois, hein, complètement recouvert de bois.
Oui. Vous voulez visiter ? Bon, on n'a pas fini tous les travaux parce qu'il nous reste la cuisine.
Nous sommes au camping de la Garenne, dans l'Oise, où de nombreuses familles vivent en mobilhome à l'année. Une manière de satisfaire leur rêve de propriété à moindre frais.
Voilà. Alors là, on a une cuisine.
Monsieur, bonjour. Monsieur, c'est là.
Là, on a un petit salon. Là, nous avons une petite salle de bain, qui est petite, qui est bien quand même. Hein. Et là, on a trois chambres. Voilà. Et là, c'est la chambre de mon petit-fils quand il vient en vacances. Voilà. Bon, ça vaut pas une maison, mais bon, pour nous, c'est très bien.
Un extrait de la série documentaire à laquelle je crois vous avez déjà participé, c'était en 2017, Gaspard Lyon, Mon toit prend l'eau ou le mirage de la propriété de Jérôme Sandlin, réalisé par Véronique Samuilov sur France Culture en 2017. On entend donc Ginette qui vit en camping, mais vous en avez rencontré beaucoup de ces gens qui vivent en camping pour votre travail de thèse qui sera publié à la fin de la semaine dans la collection Libère au Seuil et qui nous raconte les diversités, pourrait-on dire, de manières d'habiter au camping. Il y a ceux qui le choisissent parce qu'ils ne peuvent pas accéder à une propriété et à un lotissement, par exemple. Il y a ceux qui sont contraints de le faire parce qu'ils sont en trajectoire descendante, pourrait-on dire, dans la situation sociale. Puis ceux pour qui, vivant à la rue, eh bien, c'est presque mieux que de vivre auparavant à la rue. Trois situations que vous avez pu rencontrer dans votre travail d'enquête.
Oui, en effet, ce que montre l'enquête, c'est la diversité en fait, des trajectoires, des profils de résidents qui habitent à l'année dans des terrains de camping. Là, dans le témoignage,
on l'appelle le camping résidentiel, c'est cela.
Résidentiel, enfin, qu'on peut qualifier comme tel, ou camping à l'année. C'est des personnes qui, donc voilà, pour le témoignage qu'on a entendu, ce sont effectivement des personnes qui en fait, pour beaucoup, pouvaient se maintenir dans le parc résidentiel, et pour qui le mobilhome dans un terrain de camping constitue une forme d'alternative à la maison, à la propriété, au pavillon, qui est rendu de plus en plus.
Voire à l'appartement, parce qu'a priori, ils n'aiment pas beaucoup vivre en appartement.
C'est ça, c'est une manière d'éviter en fait la vie en appartement, en logement collectif, de se libérer d'un certain nombre de contraintes locatives. Et ça témoigne en fait des difficultés structurelles croissantes aujourd'hui pour les classes populaires d'accéder à la propriété. C'est des personnes qui, comme on l'entend dans l'extrait, auraient souhaité devenir propriétaires d'un habitat individuel et qui se replient sur un terrain de camping faute d'y accéder.
J'imagine, Annaïg Le Meur, en tant que députée Renaissance du Finistère, un endroit où la tension est croissante, la Bretagne en particulier, tension sur le logement, eh bien, vous connaissez ce genre de pratique, de gens qui vivent à l'année dans des campings, dans des mobilhomes, dans ces campings?
Tout à fait. Moi, j'étais masseur kinésithérapeute et effectivement, j'avais des patients qui, déjà même avant cette crise, avaient fait, alors des fois, un choix de vie parce que ça faisait aussi du lien social, ça évitait l'isolement. C'était des gens aussi qui, du coup, se retrouver dans un lieu où ils avaient des gens pour venir les aider si besoin, parce qu'on avait ces situations-là aussi, de rester seuls, isolés dans des endroits, des fois dans des maisons qui étaient insalubres parce qu'elles ne pouvaient pas les entretenir. Elles se retrouvaient seules dans des moments de vie et ils allaient par défaut aussi, parce qu'ils n'avaient pas les moyens peut-être d'entretenir la maison qu'ils avaient, ils allaient dans ce mobilhome qui était devenu en fait un lieu aussi de convivialité parce qu'ils avaient du soutien derrière, mais c'était un mode de vie. Et malheureusement, on entend aussi des gens qui sont au-delà du mobilhome, qui vivent aussi dans des conteneurs de stockage de meubles. Chez moi, à Fouesnant, il y a une jeune femme qui est aide-soignante, qui travaille et qui vit effectivement à l'année même dans des conteneurs qu'elle a aménagés, parce que la situation fait qu'elle n'arrive pas à trouver du logement, parce que nos territoires sont soumis à de fortes tensions, effectivement, liées au tourisme et à une économie forte, et à un repli aussi des populations qui viennent en villégiature chez nous ou à la retraite.
Oui, et puis il faut dire effectivement, et c'est ce qu'on apprend quand on vous lit, Gaspard Lyon, que la France est le premier parc européen de camping et le deuxième parc mondial derrière les États-Unis. Donc effectivement, il y a 860 000 emplacements dans les campings français, ce qui permet à ceux qui ne peuvent pas se loger ailleurs d'aller se loger. Vous y travaillez à la Fondation Abbé Pierre, justement, ces logements précaires de ce type-là, ou est-ce que ça fait partie de l'ensemble des missions que vous vous donnez, Manuel Demergue, à la Fondation Abbé Pierre, pour ce qui concerne le logement?
Oui, tout à fait. On essaie d'accompagner des personnes dans leur choix de vie, dans leur parcours résidentiel. Alors, évidemment, il faut jamais regarder les logements par défaut, parce qu'évidemment, c'est quand même bien souvent des logements par défaut, comme des logements purement contraints. Il y a une réinvention du mode de vie dans ces campings. Ça peut être une étape, un moment qui peut être positif pour les personnes, mais c'est quand même le symptôme d'une crise du logement, d'une pénurie de logements locatifs ou en accession à la propriété, selon les désirs des uns et des autres. Il y a beaucoup d'autres solutions. Vous avez parlé, enfin, solutions entre guillemets, de pis-aller. Vous avez parlé des containers. Il y a aussi les gens qui dorment dans leur voiture, les personnes, et c'est beaucoup moins visible, qui sont hébergés par des tiers. On voit que, en fait, faute de logement standard, normal, qui correspond quand même à l'aspiration d'une majorité des personnes, pas toutes, mais une majorité, il y a plein de solutions qui, en fait, contribuent aussi à invisibiliser la crise du logement. Parce que ce sont des personnes qui sont pas très visibles, qui sont dans des campings un peu lointains, ou alors qui sont à l'abri sur un canapé d'un copain ou d'un cousin, d'un oncle. Mais en fait, s'il n'y avait pas ces solutions d'appoint, qui ont le mérite d'exister,
ça serait encore plus visible.
Ce serait très visible.
Oui, et de votre côté, Nicolas Glière, vous qui êtes directeur de l'Habitat à Nantes Métropole, on sait combien, alors je vais pas demander si Nantes est la capitale de la Bretagne face à quelqu'un du Finistère, mais enfin en tout cas, on sait combien la pression sur une ville comme celle de Nantes est importante depuis pas mal d'années maintenant, puisque vous avez beaucoup de gens qui viennent habiter la métropole de Nantes d'un peu partout en France. Est-ce que cela, vous connaissez cette variété, pourrait-on dire, de logements?
Oui, tout à fait. Le territoire nantais, au sens de la métropole de Nantes, est un territoire extrêmement attractif, en très fort développement démographique. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est une croissance 3 à 4 fois supérieure à la moyenne nationale, ce qui vous donne une idée de la pression qui s'exerce sur le territoire. Alors c'est un élément positif qui évidemment traduit la vitalité économique et l'attractivité du cadre de vie nantais. Néanmoins, cela pose des questions extrêmement prégnantes en matière de logement, qui sont renforcées ces derniers temps par la crise structurelle du secteur du logement. Alors en termes de traduction, bien c'est effectivement ce qui a été décrit par les autres invités, en particulier Manuel Domergue, des formes de logement non choisies. On n'a pas forcément des données très exhaustives sur les formes liées au camping, mais on sait très bien que des salariés en sont réduits parfois à dormir dans leur véhicule. On voit également se développer du logement non choisi chez des proches, donc une forme de, entre guillemets, d'hébergement temporaire. Et puis on le voit, on le lit dans les chiffres de la demande de logement social sur l'agglomération nantaise qui ne cesse de croître. Pour vous donner un ordre de grandeur, pratiquement, on est désormais à 38 000 demandeurs de logements sociaux pour un parc de logements sociaux qui est aujourd'hui de 64 000 logements sur l'agglomération.
Oui, donc effectivement, c'est une tension, c'est une très grande tension sur ce type de logement. Vous vouliez réagir, Emmanuel Domergue ?
Non, effectivement, on sait que parmi les personnes qui vivent en camping, un certain nombre sont en attente de logement social. Donc ça peut être une aspiration à vivre au camping, mais parfois c'est un pis-aller. Et dans ces cas-là, c'est vrai que l'attente, elle est longue, quoi. Quand vous êtes dans un camping, alors que c'est pas un choix de vie de votre part, parce que vous attendez un logement social parfois pendant 2 ans, 3 ans, 10 ans, ça veut dire que parfois votre vie, elle est un peu entre parenthèses. Et puis et Gaspard Lyon le montre très bien, c'est aussi des conditions de vie relativement précaires.
Oui, des conditions de vie précaires, avec d'un côté ceux qui achètent une caravane peu cher pour pouvoir vivre dans cette caravane, mais évidemment peu isolé. Ceux qui vivent plutôt dans des mobil-homes qui sont, eux, plutôt bien isolés, mais avec aussi la possibilité ou non d'avoir de l'eau l'hiver quand il gèle, parce que ça n'est pas toujours le cas quand on arrive à avoir de l'eau. Donc c'est assez complexe pour pouvoir vivre. Et avec une variété, ce qui est très intéressant dans notre livre « Vivre au camping », Gaspard Lyon, c'est la variété des personnes que vous avez pu y rencontrer. Donc entre personnes qui ont choisi, justement, choisi un peu forcé, mais choisi tout de même de vivre ici, et d'autres qui n'aspirent qu'à quitter les campings pour pouvoir retrouver un autre type de logement.
C'est ça, vous avez des personnes effectivement pour qui l'arrivée dans des terrains de camping est vécue comme une forme de grande relégation, avec des formes de souffrance sociale très prononcées. Des personnes qui vivent le camping comme un dernier recours en réalité, hein, qui ont très peu de marge de manœuvre dans le parc résidentiel et qui pour autant peuvent être en emploi, avoir un salaire, avoir des revenus relativement stables et qui vivent en fait très difficilement ces situations comme un déclassement social et résidentiel. Ce sont des personnes qui, du fait de la conjoncture immobilière, du fait de l'envolée des prix de l'immobilier, se retrouvent très fragilisées dans des situations de rupture conjugale, par exemple, de séparation, et qui, dans un autre contexte, auraient pu rebondir et retrouver un logement dans le parc ordinaire.
Avec tout de même, et c'est ça qui est intéressant, une sorte de discours de valorisation de son propre choix, alors que parfois elles n'ont pas totalement choisi ces personnes, en disant « je préfère, il y a la nature, je préfère, tout compte fait, vivre ici que vivre avec quelqu'un qui est au-dessus ou quelqu'un qui est au-dessus dans un parc HLM, etc., etc. Donc, d'une certaine manière, une manière de se présenter différemment, vous appelez ça la respectabilité habitante pour certains d'entre eux.
Oui, il peut y avoir une quête aussi de respectabilité, en effet, pour certaines personnes fragilisées, précarisées. Ça peut être une manière aussi de mettre à distance des fractions des classes populaires plus paupérisées qui cohabitent avec qui ces personnes cohabitent dans ces terrains de camping. Une manière, de marquer effectivement
la distance, la différence.
La différence.
Anaïque Lemeur, en tant que députée Renaissance du Finistère, vous avez dit que vous le voyiez, bien évidemment. Mais ce qui est plus prégnant chez vous, j'imagine, et c'est peut-être ce qui vous a poussé justement à vouloir travailler en tant que députée sur ce sujet, c'est la question de la pression touristique, de la pression locative, donc de type saisonnier, qui fait qu'on enlève autant de maisons, d'appartements à la location à l'année, et que quand on est dans une région relativement touristique comme la vôtre, eh bien, au bout du compte, ça devient de plus en plus difficile.
Effectivement, en fait, sur notre territoire, il y a eu une augmentation. C'est qu'en France, on est parti en 10 ans de 80 000 logements de courte durée à 800 000. Donc, c'est une remontée exponentielle en 10 ans du nombre de logements de courte durée, pour pas dire de Airbnb, mais tout le monde utilise, en fait, le terme Airbnb pour le citer. Et sur nos territoires, ça a été effectivement une montée en puissance qui a créé, en fait, des tensions territoriales, parce que des gens qui ont des emplois ne trouvaient plus de logement ou à des prix très chers, parce que l'alignement des prix se faisait sur l'alignement du prix du touristique. Sauf que ces logements-là ne sont occupés aussi qu'une partie de l'année, c'est du 90 jours, voire 120 jours maximum par an. Donc ce sont des biens, ça crée des tensions parce qu'on voit les volets clos le reste du temps et on se dit c'est pas occupé. Donc du coup, ça crée des tensions entre les populations alors qu'on a besoin de ce tourisme aussi, mais il faut le réguler tout simplement.
Avec quelque chose qui est assez paradoxal, c'est-à-dire qu'un lieu théoriquement de logement d'été, le camping devient un lieu de logement permanent, alors qu'un lieu de logement permanent, comme des habitations en bord de mer ou dans une région qui est touristique, deviennent, tout compte fait, des volets clos les trois quarts de l'année. C'est cela aussi qui est assez
particulier. C'est un peu le sujet que vous abordez, c'est cette précarisation, c'est-à-dire qu'il y a ce déplacement en fait, de population vers des murs en dur, vers des murs en bois. Quoi. Ça...
Et c'est la même chose, en fait.
Manuel Domergue.
On voit que beaucoup de ménages modestes, qui sont en fait délogés par la multiplication des locations saisonnières meublées type Airbnb, vont se réfugier dans des hôtels. Ils sont des hôtels, souvent de piètre qualité, qui sont payés très cher par la puissance publique. Et donc, on a des touristes dans des vrais logements et des habitants à l'année dans des hôtels. Là encore, c'est un peu le monde à l'envers.
Oui, vous l'imaginez comment, Nicolas Glière, de là où vous êtes en tant que directeur de l'habitat à Nantes Métropole? Parce que j'imagine que c'est autant de logements qu'il faut construire. Quand on voit arriver autant de personnes dans sa métropole comme la métropole de Nantes, eh bien, c'est beaucoup de logements, donc c'est beaucoup d'investissements de votre part. Mais aussi ces situations temporaires qui sont entre le moment où les gens arrivent et le moment où ils peuvent finalement se loger en dur dans votre métropole.
Oui, en effet, un enjeu qui est porté par le programme local de l'habitat qui consiste à produire 6000 logements par an, dont environ 2000 logements locatifs sociaux, mais également des logements qui sont en accession abordable. Vous parliez tout à l'heure de l'accession à la propriété. L'objectif est bien d'avoir une gamme de logements la plus variée possible. Maintenant, ça, ce sont les objectifs.
Vous en êtes à 3700 plutôt que 6000, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. Cette année, 3700 logements autorisés, hein, dans le jargon de la construction. 3700 logements autorisés, c'est tout simplement le témoignage du ralentissement très fort que connaît le secteur pour divers facteurs, diverses raisons que je ne vais pas développer ici, mais qui sont connues, hein, notamment la question des taux d'intérêt en particulier, mais également de la hausse des coûts de construction consécutive à la guerre en Ukraine. Et donc, on arrive aujourd'hui dans un effet ciseau qui est particulièrement redoutable. Alors, localement, on assume nos responsabilités dans le sens où les élus métropolitains se sont prononcés en juin dernier pour un plan de relance du logement qui a été doté d'une enveloppe de 20 millions d'euros, qui est un plan de relance exceptionnel qui permet de produire des effets tangibles puisqu'on a permis de débloquer 1300 logements en quelques mois qui vont pouvoir être lancés en termes d'opération. Mmh. Il n'en demeure pas moins qu'on reste dans une situation qui est une situation fragile et surtout qu'un nouveau modèle de logement est à réinventer à l'avenir. On y travaille notamment dans le sens, par exemple, de ce qu'on appelle la dissociation foncier-bâti, c'est-à-dire ne vendre finalement que les murs du logement et sortir le foncier qui devient de plus en plus onéreux de l'équation de production du logement. Typiquement l'une des mesures intéressantes qui peut sortir de la période.
Alors, je ne sais pas si c'est un modèle, mais l'association foncier bâti, c'est ce qui existe dans les campings à mobilhome d'une certaine manière. On achète son mobilhome mais on s'installe sur un foncier qui n'est pas le sien.
Oui, mais dans une situation effectivement qui n'est pas encadrée. Enfin, en fait, ces résidents relèvent du droit du tourisme et non pas du droit du logement. Sont propriétaires souvent de l'habitat et pas du foncier, et ce qui a des conséquences très précarisantes pour un certain nombre de ces personnes qui relèvent des règlements intérieurs édictés par les gérants eux-mêmes.
Bien sûr, par les gérants de camping, évidemment.
Des pratiques qui peuvent être abusives et des expulsions locatives qui sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre dans ces terrains.
Sans compter, vous en parlez, de la fermeture des campings, ce qui peut être aussi un drame pour beaucoup de personnes. Glomer, tout de même, je vais vous poser la question délicate pour une députée de la majorité. Qu'est-ce qu'a fait cette majorité justement pour améliorer cette situation qu'on décrit, qui est quand même assez catastrophique dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire pas simplement la question des campings, la question des logements précaires, la question d'Airbnb? Est-ce qu'on avance sur ce point-là?
Ah oui, on avance beaucoup sur les différents points. Bien sûr que on voudrait que ça avance plus vite parce qu'on retrouve quand même des gens à la rue, des gens en difficulté et on constate aussi, comme vous, c'est pas parce qu'on est dans la majorité que le constat, on le partage pas, on le partage. Effectivement, les raisons de la crise ont été décrites par le monsieur de la métropole de Nantes, mais effectivement, on travaille. Il y a plusieurs textes qui sont en cours, qui sont notamment sur la transformation des bureaux en logement parce qu'il y a beaucoup de bureaux qui sont inoccupés. Il faut absolument pouvoir les modifier, les changer rapidement, les mettre pour soit de la location, soit pour de l'hébergement, parce qu'on a nécessité à héberger. Donc il y a des nouveaux modules, mais il faut aussi refaire toute la législation qui va avec. Donc ça, on travaille dessus. Il y a une loi qui est en cours. Il y a aussi la loi que je porte avec Iñaki Etxaniz, donc sur réguler le logement de courte durée.
Et qui n'est pas encore
votée. Il passe au Sénat. Donc elle passera au Sénat fin mai. Et donc du coup, on
avec espoir que ça passe au Sénat.
Alors, la loi est intéressante parce que, au-delà de la fiscalité qui a un peu tenu tous les débats, il y a quand même des dispositifs qui donnent aux maires, en fait, une boîte à outils qui leur permettra d'agir localement et efficacement localement. De toute façon, le pire, c'est de ne rien faire. Je pense qu'il faut agir de toute façon. Certains vous diraient que c'est qu'une petite part. Effectivement, on a conscience qu'on ne va pas résoudre la crise du logement avec ce que l'on propose, mais ça crée de fortes tensions sur les territoires. Et à côté de ça, on va accélérer les rénovations, les rendre plus simples aussi, rendre plus simples les permis de construire sur le modèle, justement, de la construction des logements qui vont être faits pour des bâtiments qui vont être faits pour les JO. Et ben on va appliquer cette façon de faire pour l'ensemble des logements à l'avenir pour aller plus vite dans la construction.
Emmanuel Demers, ça suffit pas, vous êtes assez pessimiste même sur à la Fondation Abbé Pierre dans votre dernier rapport sur le logement le 1er février dernier, vous êtes même vous tirez plus que la sonnette d'alarme, vous dites c'est une catastrophe, pourquoi on n'est pas allé plus vite d'une certaine manière. Et puis il y a aussi cette dimension du temps. Parce que construire des logements, c'est du temps et on a perdu beaucoup de temps et ça va pas être facile de rattraper ce temps perdu.
La sonnette d'alarme, on l'a tirée il y a,
ça fait déjà des
il y a
années.
Plusieurs années. Maintenant, on est devant. Voilà. On avait dit, il y a une bombe sociale à retardement qui menace d'exploser. Elle a explosé. Et on l'a vu, la chute drastique de la production de logements, tout compris, et en particulier de la production de logements sociaux. Et là, c'est vrai que c'est terrible d'avoir aussi peu fait. Et non seulement ils ont peu fait au gouvernement depuis 2017, mais ils ont mal fait. Ils ont retiré beaucoup d'argent au monde HLM. Imaginez, 1,3 milliard qui est ponctionné sur le monde HLM chaque année. Et une des premières décisions de la nouvelle majorité, ça a été d'augmenter la TVA sur la production HLM, dont on manque tellement. Donc là, c'est des actes politiques qui sont vraiment dramatiques et
contre-productifs,
qui existent toujours. Ils sont pas revenus en arrière.
Oui, Anaïs Lemeur, vous répondez quoi à ce qui vient d'être dit?
Alors, c'est pas moi qui vais forcément donner mon avis sur est-ce qu'il faut revoir la TVA, parce que vu la situation d'endettement de la France, malgré tout, il y a une situation qui est quand même fragile globalement. Maintenant, j'entends quand même la remarque, parce qu'effectivement, il faut savoir entendre et voir ce que l'on peut faire. On peut aider et accélérer. On aide quand même beaucoup sur plusieurs dispositifs de rénovation. Et au-delà de ça, il n'y a pas... Tout le monde peut aider. On voit que les entreprises ont pris aussi la main sur le logement. Donc, dans certains territoires, on arrive à mobiliser aussi citoyennement, parce que dans cette dimension, il n'y a pas que l'État. Chacun peut aussi prendre conscience de l'état d'urgence et faire un pas. Avoir un logement actuellement qui n'est pas occupé, ce n'est plus juste. Donc, il faut pouvoir aussi que les gens puissent le remettre en location, même pour du social. Il y a des dispositifs qui existent. Il faut s'appuyer dessus.
18h42 sur France Culture. Vous écoutez le temps du débat. On va faire une petite pause en écoutant Emmanuelle Cosse, présidente de l'Union sociale pour l'habitat, justement un des principaux bailleurs de logement social. Dans l'émission On n'arrête pas l'écho sur France Inter, c'était en septembre dernier.
Quand les entreprises de promotion immobilière seront détruites, elles mettront des années à se remonter. Qu'il y ait besoin de réguler le marché privé, moi j'y suis très favorable. Mais n'attendons pas la catastrophe pour y arriver, de même que sur le logement social. On nous a réduit les aides publiques depuis plus de 6 ans. Et aujourd'hui, tout le monde déplore qu'on a baissé notre production énormément.
Production, ça veut dire construction de logements.
Construction de logements, qu'ils soient neufs ou qu'ils soient sur des bâtiments anciens. Mais on est passé d'une capacité à construire 125 000 logements par an. Là, cette année, au mieux, on va faire 80 000. Non, vous vous rendez compte, chaque année, on perd 40 000 logements sociaux sur le marché, pendant qu'il y a en effet 2,4 millions de ménages qui attendent. Et surtout, je ne crois pas que c'est un problème individuel. La difficulté à se loger, ce n'est pas un échec individuel. Ça va avec des politiques de l'emploi, des politiques de mobilité professionnelle et donc une politique au plus haut niveau de l'État.
France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
On vient d'entendre Emmanuelle Cosse, la présidente de l'Union sociale pour l'habitat. Nous sommes en compagnie de Gaspard Lyon, sociologue, de Emmanuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre, d'Anaïg Lemeur, député Renaissance du Finistère, et de Nicolas Glière, directeur de l'habitat à Nantes Métropole. Est-ce qu'on ne s'habitue pas en tant que observateur, Nicolas Glière, au fait que peut-être il faudra faire des logements, disons, moins formatés qu'ils ne l'étaient auparavant. On met la focale maintenant sur de nouveaux types d'habitat. On se dit tout compte fait, il faudrait produire peut-être, on entendait parler tout à l'heure, des containers, des choses légères qui permettraient de temps en temps permettre aux gens de se loger et de ne pas être à la rue.
Alors, s'habituer, je ne sais pas si c'est le terme. En tout état de cause, c'est peut-être aussi diversifier l'approche que l'on a par rapport à la production de logements. Et d'ailleurs, ce sont des éléments que l'on développe localement au niveau de Nantes Métropole, en particulier pour raccourcir les temps de production de logements et puis être en capacité de produire du logement sur des fonciers qui n'ont pas encore trouvé, des terrains qui n'ont pas encore trouvé un usage définitif, pour éviter finalement d'avoir ce qu'on peut appeler des dents creuses, alors que les terrains sont de plus en plus rares, en particulier sur les territoires en tension. Donc ce sont des pistes que l'on explore d'ailleurs dans le plan de relance métropolitain pour le logement, ce qu'on appelle la construction modulaire, sur des fonciers qui sont temporairement disponibles, qui peuvent être mis à disposition d'ailleurs par les services de l'État. Et c'est là où on voit vraiment l'importance d'un partenariat et que l'on converge tous dans la même direction, partenaires étatiques, partenaires également du monde économique et puis collectivités territoriales. Donc oui, c'est une réponse. De là à dire que ce sera la réponse de droit commun, je ne pense pas.
Non, parce qu'on pourrait avoir l'impression, en tous les cas, qu'on va s'habituer à une tension sur le logement qui fera qu'au bout du compte, des solutions qui n'étaient pas acceptables auparavant finissent par le devenir. Anaïs Lemeur.
Oui, moi sur ce sujet, je pense qu'il y a des réflexions qui sont menées, notamment sur l'habitat flexible, c'est-à-dire que un logement, maintenant, c'est une petite alvéole, une petite cellule. Vous prévoyez des trémies, vous prévoyez des portes qui seront masquées et on fera évoluer le logement en fonction de l'évolution de la cellule familiale. Et ça, c'est comme ça qu'il faut envisager demain le logement. C'est effectivement aussi le faire en pré-bâti, c'est-à-dire avec des murs déjà préconçus. C'est aller plus vite et le rendre modulable. C'est un petit les gens puissent rester. Parce que dans le logement social, il y a des gens qui y restent toute leur vie, sauf que leur cellule familiale a changé. Et donc, dans la loi Elan, on avait demandé à ce qu'on puisse cloisonner, on voit bien que techniquement c'est pas possible, voilà, qu'on soit un petit peu en avance, on a des architectes qui travaillent là-dessus, qu'on soit un peu précurseur en France sur de l'habitat modulaire.
D'accord, mais il y a quelques années par exemple, on avait cette habitude de dire ben voilà, il faudra que les gens s'habituent à changer de métier, donc à abandonner leur maison et donc à ne pas être propriétaire, à devenir des gens mobiles. Mais ce qu'on voit en vous lisant, et c'est tout à fait passionnant Gaspard Lyon, c'est que cette mobilité ou ce désir de mobilité conduit à l'immobilité, c'est-à-dire des gens qui sont bloqués dans des mobil-homes, dans des campings, qui ne peuvent pas en sortir parce que les conditions, justement, ne sont pas possibles pour eux ou pour elles d'en sortir. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez terrible, parce que quand on a en tête le discours d'il y a une dizaine d'années, soyez mobile, quittez, soyez locataire, c'est beaucoup plus simple, vous n'aurez pas à vendre votre maison et vous ne serez pas avec un fil à la patte, eh bien on s'aperçoit que le fil à la patte, il existe tout de même, Gaspard Lyon.
Oui, le camping à l'année ou ces situations de logement non ordinaire ou dégradé, elles témoignent aussi des restrictions des possibles en matière de logement pour les classes populaires en particulier, qui sont les premières frappées par les politiques néolibérales de dérégulation du marché immobilier qui ont été conduites depuis plusieurs décennies et particulièrement au cours des dernières années, des politiques de dérégulation du marché de l'emploi, démantèlement des protections sociales. Donc vous avez des possibles en matière de logement qui ne
disparaissent.
De se restreindre, qui disparaissent, des possibilités d'accès et de maintien dans le parc qui ne cessent de réduire, et donc effectivement de plus en plus de personnes qui sont assignées à résidence, qui sont assignées à des formes de logement dégradés, des formes de logement insalubres, des formes de logement qui sont peu protégées juridiquement et qui peuvent effectivement vivre de manière extrêmement douloureuse ces situations, sans compter que ça interdit la possibilité d'avoir des projets de vie, de pouvoir faire des études avec
quand
des problèmes de santé.
Quand on lit les personnes que vous avez interrogées, elles sont très nombreuses, je crois que c'est 70 en tout, quelque chose comme cela. Pour certaines d'entre elles, elles sont depuis 13 ans dans ce type de logement. D'autres, 3, 4 ou 5 ans. Donc, c'est une partie de sa vie, voire une très grande partie de sa vie pendant laquelle on vit dans ces logements qui sont, a priori, des logements précaires et dans lesquels même on investit en sachant que 10 ans, 15 ans plus tard, eh bien, cet investissement ne vaudra plus rien puisque ce mobil-home sera en voie de destruction.
C'est ça, c'est des personnes effectivement qui ne pouvant accéder à la propriété vont investir tout leur capital, leur patrimoine dans l'achat d'un mobil-home à plusieurs dizaines de milliers d'euros potentiellement et qui risquent en fait du jour au lendemain de perdre tout leur investissement. Donc c'est un investissement qui n'a aucune valeur patrimoniale et ce qui vient creuser, c'est à la fois le reflet des inégalités sociales et résidentielles croissantes et ce qui creuse finalement le logement est aujourd'hui un facteur majeur de creusement des inégalités en France.
Emmanuel Domergue.
Oui, effectivement, on voit bien qu'il y a une sorte d'assignation à la mobilité résidentiel pour s'adapter au marché du travail, mais en réalité le marché de l'immobilier n'est pas fait pour ça. Enfin, en tout cas, il répond pas.
En tout cas, tel qu'il existe,
il répond pas forcément à cette injonction économique. Et puis après, il y a aussi il y a une injonction économique, changer de travail, changer de région. Puis il y a aussi la vie des gens, c'est-à-dire s'ils ont pas forcément envie d'être mobiles. Certains ont envie, et c'est pour ça que le secteur de la location privée, c'est très bien.
On n'est pas comme aux États-Unis où, comme le dit donc Gaspard Lyon, 22 millions de personnes vivent en mobil-home. Donc effectivement, et où cette tradition s'est instauré dans les années 20 avec cette idée qu'il fallait se déplacer de chantier en chantier pour pouvoir fabriquer les villes.
Ça, et construire c'est pas la société qu'on veut quand même.
C'est même pas la société qu'on connaît.
On veut une société où les gens peuvent bouger, peuvent changer de travail s'ils le souhaitent. Mais il ne faut pas précariser le logement pour flexibiliser le marché du travail. On avait eu, dans la loi Elan dont vous parliez, l'instauration d'un bail mobilité. Un bail mobilité, c'était vous avez un bail de 1 à 10 mois. Pour certaines catégories précaires de la population, en disant ben si le travail est précaire, il faut que le logement soit précaire aussi. Mais c'est n'importe quoi. Le logement, ce qui fait un logement par rapport à un hébergement, c'est la stabilité. Si on veut un vrai logement, un bail de 3 ans, 6 ans, 10 ans, n'a jamais empêché personne de changer de logement quand il en avait envie.
Madame la députée Annaïg Lemeur.
Je réagis parce que actuellement, enfin, je suis dans un territoire, donc Fouesnant notamment, ouais, en Finistère, où on a le plus en fait de camping en Bretagne. Donc du coup, c'est quand même une situation qu'on connaît bien. Et actuellement, ce que je voulais pointer aussi du doigt, c'est que les gens qui sont propriétaires sur ces campings sont aussi dépendants du gestionnaire. Quand le gestionnaire change, la règle, elle change. Donc, du jour au lendemain, on va leur dire, votre mobil-home ne répond plus aux normes, c'est au style qu'on veut donner à notre camping, parce que nous, on veut du bleu, le vôtre, il est rouge, ça va pas, ça ne correspond plus, donc on va mettre fin. En fait, à notre partenariat. Et du coup, des gens se retrouvent sans logement, du coup, sans toit, parce qu'ils se retrouvent en grande précarité. Et puis, le coût, on n'en a pas parlé, parce que c'est pas parce que vous avez payé votre mobil-home. Derrière, vous avez tout le coût de la location, qui est quand même assez cher, quand même, quand on est propriétaire occupant d'un camping. Ce n'est pas non plus donné. Il ne faut pas croire que pour autant, c'est du gratuit. C'est du logement, c'est du terrain de tourisme.
Quoi, 350 à 650 euros par mois, c'est ça qu'on paye pour l'occupation du lieu.
Pour ces campings haut de gamme, on est plutôt sur 350-400 euros au mois, en moyenne, ouais.
Oui, donc en plus de l'investissement dans
le mobil-home, avec effectivement le risque de tout perdre du jour au lendemain et des frais qu'on pourrait dire cachés, parce que pas anticipés par ces résidents, le fait de d'avoir des factures d'électricité qui peuvent être très élevées, notamment quand ces personnes sont situées dans des terrains de camping où les gestionnaires en fait revendent l'électricité à des prix supérieurs à ceux du fournisseur, et avec effectivement les règles que vous avez mentionnées, des gérants, des propriétaires qui vont pousser ces résidents au bout de quelques années à racheter un mobil-home, parce que ces propriétaires disposent de leur entreprise de vente de mobil-home et font des plus-values très importantes lors de ces ventes.
Oui, Annaïg Lemeur et Emmanuel Demergue sur ce point.
C'est une situation qui est très décrite actuellement dans la presse chez nous, parce qu'effectivement, il y a ceux qui habitent à l'année, mais même les autres propriétaires se retrouvent un peu dépossédés de leurs biens. Maintenant, il y a la situation des campings. Alors, pour revenir dessus de façon plus large, on voit que dans certains territoires, j'ai eu la chance de faire le tour de France, et donc à Bayonne, par exemple, les étudiants sont actuellement logés dans des campings. Donc du coup, on se dit, est-ce que l'on veut ça pour nos jeunes et qui sont en situation aussi difficile pour certains? Voilà, il faut maintenant anticiper un petit peu plus, je pense, sur quand on fait une école, quand on fait une grosse entreprise, quand on parle on est dans une dynamique actuellement de réindustrialisation, surtout ne pas oublier le logement, la mobilité, l'aménagement du territoire. C'est tout un ensemble pour bien vivre. C'est pas qu'un toit, il y a aussi l'ensemble qui va avec.
Emmanuel Demergue.
Et la question aussi importante des droits qui sont attachés à ces types d'habitats, que l'on parle du mobil-home en camping ou des habitants dits gens du voyage, par exemple dans des aires d'accueil ou avec leur caravane, ce n'est pas reconnu comme du logement et donc ces personnes n'ont pas droit aux APL, les aides au logement, ou au chèque énergie dont la distribution commence aujourd'hui, alors qu'ils ont souvent des factures d'électricité très importantes, plus importantes même que leur consommation réelle, et ils ont droit à rien. Donc il faudrait reconnaître ces types d'habitats comme des logements, non pas pour dire que c'est des bons logements, mais pour attacher des droits aux personnes qui les habitent.
De votre côté, Nicolas Aglier, comment penser le logement quand on est donc gestionnaire de l'habitat à Nantes Métropole ? C'est-à-dire, est-ce qu'on le pense séparément ? Là, on a des exemples, pourrait-on dire, les campings, on a les exemples de logements dans la voiture, vous en parliez tout à l'heure, de logements HLM ou d'autres types de logements par l'intermédiaire de Airbnb ou d'autres façons d'habiter. On le pense comment, le logement, en tant que gestionnaire comme vous ?
on le pense comme un continuum en réalité.
Qu'est-ce qu'on appelle un continuum ?
Eh bien, en fait, on analyse d'abord les besoins de la population, les dynamiques économiques, les dynamiques sociales, les dynamiques démographiques dont je parlais tout à l'heure.
Mais je parlais tout à l'heure du temps. Ça veut dire que pour une ville comme Nantes et une métropole comme Nantes, ça veut dire qu'il faut se projeter à combien ? Parce que tout compte fait, cette croissance de la population que vous connaissez depuis maintenant une vingtaine d'années, elle peut s'arrêter. Il peut y avoir d'autres modes. On peut avoir envie d'aller vivre en Alsace et puis de venir à Nantes. Et en même temps, vous êtes obligé d'investir sur une assez longue durée.
Oui, tout à fait. D'autant plus que la politique du logement ne se pense pas isolément des autres politiques publiques, en particulier de la politique d'aménagement du territoire. D'ailleurs, les documents d'urbanisme tiennent compte des besoins de logement et ces documents se projettent sur plusieurs décennies. Donc on réalise des études prospectives, en particulier avec notre agence d'urbanisme. On a un propre modèle d'ailleurs de prospective démographique au niveau de l'agglomération nantaise, que l'on confronte au modèle INSEE, ce qui nous permet de tenter d'approcher, parce qu'après c'est un exercice de prospective, donc avec toutes ses limites.
Oui, parce qu'il faut construire des écoles, il faut construire des... pourquoi pas agrandir les hôpitaux. Enfin voilà, quand on est en croissance comme Nantes, eh bien on a plein de questions.
Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un des éléments phares du mandat de Johanna Roland en tant que maire de Nantes, pour le coup, la construction de nouvelles écoles pour anticiper l'arrivée de nouvelles populations. Donc, finalement, on a besoin d'avoir ce diagnostic, cette connaissance du territoire, des évolutions également sociétales que l'on retrouve par ailleurs. Il y a énormément de décohabitation, ce qui fait qu'en fait, les logements sont de moins en moins, entre guillemets, remplis, là où on avait une moyenne de 3,5 habitants par logement. On est aujourd'hui plutôt aux alentours de 2 habitants par logement. Et donc, du coup, on a, je dirais, un besoin de développement de logements encore plus important que par le passé. Et des typologies différentes, des petites typologies ou au contraire de très grands logements pour certaines familles.
Oui, effectivement, ça rend complexe cette gestion. À la question que nous posions, la crise du logement assigne-t-elle à la résidence les plus précaires ? J'imagine que vous dites oui, en l'occurrence, de votre côté, Gaspard Lyon. Et vous voyez des solutions après votre travail de thèse ?
Je crois qu'effectivement, je réagirais à ce que disait Manuel de Merck tout à l'heure. Il s'agirait effectivement de repenser la législation du côté du droit des personnes qui vivent dans des habitats non ordinaires pour leur garantir un certain nombre de protections juridiques dont elles sont à l'heure actuelle privées. Agir de ce niveau-là et agir évidemment aussi du côté des causes structurelles de la crise du logement, c'est-à-dire des facteurs qui conduisent à l'expansion du phénomène.
Annaïg Lemeur, en tant que députée, vous entendez cette proposition ?
Oui, je l'entends, je l'entends et je la saisis. Maintenant, ce que j'entends aussi dans le propos de monsieur à Nantes, je pense qu'il faut aussi se projeter comme visionnaire en tant qu'élu et se projeter justement sur la démographie. Lui, il a la chance d'ouvrir des écoles, nous on les ferme parce qu'on a un vieillissement fort et ça veut dire aussi le logement de demain, il faut qu'il soit adapté au vieillissement des populations et ça, il y a encore du travail à faire parce qu'il faut que chacun prenne sa part justement sur ce vieillissement.
Manuel Demergue ?
Oui, il y a des personnes qui sont, parce qu'elles sont précaires, elles sont assignées à résidence. Il y en a aussi qui sont assignées à errance. Je pense notamment à la reprise des expulsions locatives depuis hier.
Aujourd'hui, parce que je crois que c'était pas effectif hier.
Oui, depuis aujourd'hui. On a encore battu un record en 2023 avec 21 500 ménages expulsés par la police de leur logement. Ils sont pas assignés à résidence. Ils sont assignés aux hôtels, ils sont assignés au canapé des copains, ils sont assignés à la rue, à leur voiture. Et ça, un modèle qui proposera un vrai logement, un droit au logement pour tout le monde, c'est un modèle qui reviendrait là-dessus. Et là, c'est pas le chemin qu'on prend.
Merci en tous les cas à tous les quatre d'avoir débattu de cette question du logement. La crise du logement assigne-t-elle à résidence les plus précaires ? Merci à vous, donc Manuel Demergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre. Merci à vous, madame la députée Annaïg Lemeur, députée Renaissance du Finistère. Donc il faut attendre le mois de mai pour savoir quel est le vote du Sénat sur votre proposition Airbnb, c'est cela ?
Tout à fait.
Merci à vous, Nicolas Glière, à distance, directeur de l'Habitat à Nantes Métropole. Et un grand merci à Gaspard Lyon. Je conseille vraiment avec beaucoup de chaleur la lecture de votre livre Vivre au camping, un mal logement des classes populaires. On sait à quoi ça sert de faire des sciences sociales quand on vous lit. Merci beaucoup. C'est au Seuil et ça sort dans la collection Libelle. C'était donc le temps du débat préparé ce soir par Fanny Richer, Roxane Poulain, Mathias Mégy, Anouk Sévenot, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malonda avec Alex Dang à la technique.